Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, notre ami Yann Mens, le spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques, est de retour parmi nous. Bonjour Yann.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Nous allons parcourir ensemble, comme nous le faisons à chaque fois, l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours ?
Malheureusement, cette semaine encore, ce sont des images de l'Ukraine, des informations venant de l'Ukraine, notamment un petit reportage qui a été diffusé par la BBC ces derniers jours, qui montre, ce sont des extraits de caméras de surveillance qui sont tournées en Ukraine. On voit des soldats russes en maraude qui s'approchent d'une usine ou quelque chose comme ça, où il y a un gardien et un autre homme.
Ils discutent avec eux. Un concessionnaire automobile, non ?
Peut-être, ouais. Peut-être, effectivement. Et ils discutent avec ces deux Ukrainiens, et puis les soldats russes s'éloignent, et deux d'entre eux reviennent et tirent dans le dos des deux Ukrainiens avec lesquels ils viennent de discuter. Et l'un des deux arrive à se traîner jusqu'à son petit local, et là il finit par mourir parce que des membres de la défense territoriale ukrainienne sont venus à son secours mais n'ont pas pu le sauver. Ce sont des images d'autant plus frappantes qu'elles sont tournées par des caméras de surveillance, donc elles ont un côté très ordinaire. Parce qu'on voit ce genre d'image quand on se balade un peu dans le métro ou n'importe où, on voit ce genre d'image. Et c'est d'autant plus frappant qu'il y a un contraste entre ce qu'on voit et ce qui se passe. Et surtout la froideur avec laquelle ces deux soldats russes reviennent, comme s'ils avaient oublié quelque chose. Et c'est pour tuer deux personnes. Voilà.
Alors avec vous, nous allons revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons notamment pour l'Ukraine, évidemment, mais nous irons aussi en Allemagne, en France et sur le continent africain, bien entendu. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez télécharger afin de l'écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio, sur votre plateforme préférée. Avant de prendre la route de l'Ukraine, Yann, partons pour la Corée du Nord. Après avoir appris jeudi que le Covid était arrivé sous ses latitudes, on en sait un peu plus sur la propagation du virus. Kim Jong-un a décidé le confinement de l'intégralité de ce pays déjà coupé du monde. Correspondance à Séoul de Nicolas Roca.
En effectuant l'essai de 3 missiles balistiques de courte portée ce jeudi soir, la Corée du Nord semblait vouloir montrer que les affaires se poursuivaient, comme d'habitude. Mais la première image de Kim Jong-un portant un masque et les centaines de milliers de cas de fièvre suspecte annoncés par le régime, dont 18 000 nouveaux en 24 heures, démontrent la gravité de la situation. Avec un système hospitalier extrêmement fragile, sans capacité de dépistage de grande ampleur, il sera impossible d'avoir une idée précise de la propagation du virus et très compliqué pour le gouvernement de mettre en place des restrictions sanitaires efficaces. Surtout que cette vague de fièvre qui s'abat sur le pays depuis fin avril arrive en pleine sécheresse et durant le repiquage du riz, période cruciale pour la sécurité alimentaire du pays. D'ailleurs, alors qu'à Pyongyang, les habitants auraient reçu l'ordre de rentrer chez eux dès mardi, à la frontière avec le sud, des paysans ont été vus ce jeudi en train de poursuivre leurs activités agricoles. Il semblerait que le régime veuille poursuivre les activités économiques aussi normalement que possible, tout en limitant fortement une liberté de mouvement qu'il était déjà. Désormais, les experts s'interrogent pour savoir si la Corée du Nord poursuivra avec ses essais de missiles ou passera même peut-être à l'étape supérieure avec un essai nucléaire. Une option pour le régime afin de stimuler la ferveur patriotique dans sa lutte contre le virus.
Partons pour l'Ukraine donc, à Kiev, la capitale, Yann, lundi 9 mai. Tous les regards se sont tournés vers Moscou, nous allons en parler dans un instant. La Russie a célébré en effet sa victoire contre l'Allemagne nazie en 1945, la capitulation de l'Allemagne nazie. Et traditionnellement, l'Ukraine célèbre également cette date anniversaire, mais cette année, dans le contexte que l'on sait, aucune cérémonie officielle n'était prévue. Dans le centre de la capitale, certains habitants de la ville ont toutefois choisi de fêter symboliquement l'événement dès dimanche. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Samy Broileva.
Un chant patriotique à la gloire de l'Ukraine. Place Maïdan au centre de Kiev, des dizaines de petits drapeaux ukrainiens jaunes et bleus sont plantés sur les pelouses. Chacun représente un soldat mort au combat. En cette veille du 9 mai, Volodymyr Dimitrov est venu en famille rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre le pays. Ces héros d'hier et d'aujourd'hui, dit-il.
Le jour de la victoire fait partie de notre héritage, de notre histoire. Nos grands-parents ont gagné la guerre. Évidemment, c'est un jour important pour nous. Nous avons vaincu le fascisme à cette époque. C'est important de commémorer cet événement. En principe, l'histoire nous enseigne de ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous devons faire preuve de sagesse pour aller de l'avant.
Avec sa femme et leurs trois enfants, les Dimitrov n'ont pas quitté Kiev. Pendant deux mois, ils ont vécu au rythme des sirènes et des bombardements russes. Mais désormais, la situation est beaucoup plus calme. Oksana est émue aux larmes.
C'est une joie indescriptible de pouvoir revivre presque normalement. C'est le printemps, regardez toutes ces fleurs. Elles nous feraient presque oublier que la guerre n'est pas finie. Mais nous devons poursuivre notre combat et nous défendre. Traditionnellement, le 9 mai est un jour férié durant lequel nos enfants déposent une gerbe de fleurs au pied d'un mémorial ici à Kiev. Cette année, nous resterons tranquillement chez nous.
Car une bombe pourrait s'abattre n'importe où, ajoute la mère de famille. En Ukraine, autorités et population craignent un regain des combats en ce jour historique. Samy Bourfa, Muriel Paradon, Kiev, RFI.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes donc en compagnie de Yann Mince, le spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques, qui titre ce mois-ci sur le nouveau désordre mondial. Alors, nous allons l'évoquer dans cette émission, ce nouveau désordre mondial. Et vous nous proposez d'ailleurs aussi, Yann, un MOOC, hein, c'est-à-dire une revue enfin, qui est aussi un livre qui s'intéresse aux jeunes aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure. 50 raisons pour les jeunes de ne pas désespérer. C'est gentil de leur donner des raisons d'espérer, Yann. Mais parlons de l'Ukraine. On ira à Moscou dans un instant. Le 9 mai a aussi été marqué, malgré tout, en Ukraine, célébré.
Bien sûr, parce que pour beaucoup d'Ukrainiens, et notamment les Ukrainiens les plus âgés, il y a encore des hommes, les femmes probablement aussi, vivants qui ont combattu contre les nazis. Il faut se souvenir que l'Union soviétique de l'époque, puisqu'à l'époque c'était, tout ça était le même ensemble, a perdu des millions et des millions de personnes dans ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Et c'est évidemment un souvenir traumatique. Et à l'époque, les Ukrainiens, en tout cas une partie d'entre eux, et les Russes et d'autres nationalités de l'Union soviétique affrontèrent ensemble le même ennemi nazi. C'est pour ça que c'est très ironique aujourd'hui que Vladimir Poutine prétende vouloir dénazifier l'Ukraine comme si les Ukrainiens d'aujourd'hui, parce qu'ils sont nationalistes et qu'ils ne veulent pas fusionner avec la Russie, étaient de ce fait-là des nazis. Alors il y a quelques nazis en Ukraine, comme il y en a dans d'autres pays, y compris en Russie, mais ils sont extrêmement minoritaires, même s'ils sont très déterminés dans le combat, peut-être plus que d'autres, par moment dans le combat contre la Russie, puisqu'on connaît le bataillon Azov. Mais quand même, le simple fait d'être un patriote ukrainien, de vouloir l'indépendance et la souveraineté de son pays, ne fait pas de vous un nazi, quoi que dise Vladimir Poutine, et c'est encore plus ironique en se souvenir de la grande guerre patriotique.
Avant de partir pour Moscou, justement, Yann, un mot sur l'arrivée du Covid en Corée du Nord. On se demande comment ce Covid n'est pas arrivé plus tôt.
Il faudrait déjà être sûr qu'il n'est pas déjà arrivé, mais que ça a été caché par le régime. Ouais. La question, c'est de savoir, dans un pays aussi fermé à l'information indépendante que la Corée du Nord, est-ce que le Covid était déjà arrivé? Est-ce qu'il a fait un peu, beaucoup, pas tant que ça de victimes? Ce qui est sûr, c'est qu'en fermant les frontières, le régime a essayé de se protéger. Mais les flux transfrontaliers, on le sait, avec la Chine, ils existent. Alors, de son côté, la Chine a une stratégie de zéro Covid qui, pendant longtemps, lui a plutôt réussi. Là encore, à en croire les chiffres officiels, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué.
On voit la situation à Shanghai et même à Pékin.
Et même à Pékin maintenant. Et donc, avec le risque, dans des pays où la vaccination soit n'a pas eu lieu, comme en Corée du Nord, soit visiblement est inefficace parce que le vaccin chinois n'est pas aussi efficace que ce qu'a prétendu le régime, on a des situations extrêmement fragiles avec des risques de mort en grand nombre si les systèmes hospitaliers sont débordés, ce qu'ils risquent d'être.
Alors revenons au cœur de l'Europe maintenant. Il y a 9 mai à Moscou cette fois, commémoration de la capitulation d'Allemagne nazie en 1945 dans la capitale russe ce jour-là, Anissa Al-Jabri.
Premier signe, plusieurs dizaines de minutes avant la prise de parole de Vladimir Poutine, l'annonce qu'il n'y aurait pas de parade d'avion dans le ciel pour cause de météo chagrine, pas de dessin en forme de Z dans les nuages de Moscou, pas non plus d'avertissement à l'Occident avec l'apparition de l'Ilyushin 80, cet appareil surnommé l'avion de l'apocalypse destiné au poste de commandement en cas de guerre nucléaire. Dans son court discours, après avoir salué les vétérans médaillés sur la tribune et quelques phrases d'hommage, Vladimir Poutine est entré directement dans le vif du sujet une longue justification de sa décision du 24 février. C'est une première. Le mot Donbass a été prononcé 6 fois en 10 minutes, le mot OTAN 3 fois. Combattre pour le Donbass, c'est combattre pour la sécurité de la Russie, a dit le président russe. L'on rappelle de sa ligne politique depuis le début. La Russie se défend face à une menace, je cite toujours, inacceptable pour sa sécurité. Une opération préventive, a encore dit le président russe, face à une confrontation inévitable avec les néo-nazis. Fin de citation. Un discours tenu seul, sans invité étranger, même pas le président biélorusse Alexandre Loukachenko.
Alors justement, écoutons un extrait des propos de Vladimir Poutine. C'était lundi dernier, le 9 mai.
Le bloc de l'OTAN a commencé le développement militaire actif des territoires dans notre voisinage immédiat. Une menace absolument inacceptable pour nous a été créée, avec systématisme, directement à nos frontières. Tout indiquait qu'un affrontement avec les néo-nazis serait inévitable. La Russie a repoussé préventivement l'agression. C'était une décision forcée, opportune et juste.
Alors l'OTAN, justement, Yann, la Finlande a décidé d'y adhérer. C'était décidé jeudi par la voix de son président et de sa première ministre. Elle a demandé une adhésion à l'Organisation de l'Atlantique Nord sans délai. Correspondance régionale de Frédéric Faux à Stockholm.
Le communiqué de quelques lignes publié ce matin par le président Sauli Niinisto et la première ministre Sanna Marin est sans équivoque. Les deux dirigeants finlandais expliquent conjointement que la Finlande doit demander son intégration à l'OTAN sans délai, appelant implicitement à un vote du Parlement dans quelques jours. Pour ce pays qui, après la Seconde Guerre mondiale, a vécu à l'ombre de l'Union soviétique pendant de longues décennies et qui partage 1340 km de frontières avec la Russie, c'est une décision historique. Mais pour Charlie Salonius-Pasternak, chercheur à l'Institut finlandais des affaires internationales, c'est aussi l'aboutissement d'une évolution politique déjà ancienne.
Les Finlandais ont cessé d'être neutres avec leur entrée dans l'Union européenne en 1995 et en participant aux sanctions contre la Russie après 2014. Devenir membre d'une alliance militaire, c'est un pas historique, mais c'est aussi très pragmatique. La Russie veut envahir un pays voisin non membre de l'OTAN, bien plus grand que la Finlande. Si la Russie peut faire ça, on ne veut pas se battre seul.
Les sociaux-démocrates, le parti au pouvoir en Finlande, vont confirmer cette position ce samedi. Et ce dimanche, ce sera au tour des sociaux-démocrates suédois de se prononcer sur l'OTAN. Les deux pays nordiques, qui collaborent déjà étroitement sur le plan militaire, pourront alors faire ensemble leur demande d'adhésion.
Alors avant la guerre d'Ukraine, en Ukraine, Poutine avait demandé que la Suède et la Finlande n'entrent pas dans l'OTAN. Il n'a pas été entendu, hein. Au contraire.
Non, au contraire.
Et pour cause.
Il a, je dirais, provoqué cette entrée dans l'OTAN. Alors, ça fait un moment que les Suédois, notamment, ont des inquiétudes, et les Finlandais aussi, notamment parce que, depuis plusieurs années déjà, les avions de l'armée russe font des incursions dans l'espace aérien suédois, et depuis un certain temps, en dépit de leur tradition et de leur attachement au pacifisme, les autorités suédoises avaient tendance à augmenter les budgets de la défense. Là, à cause de l'invasion de l'Ukraine ou de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, effectivement, Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il voulait, c'est-à-dire une consolidation de l'OTAN et de plus en plus de pays de l'OTAN directement à ses frontières. Donc, effectivement, c'est un échec stratégique majeur. Et je ne suis pas certain que les conquêtes territoriales éventuelles qu'il pourra faire en Ukraine vont compenser cette défaite stratégique-là. La Finlande a payé en 1940, puisqu'elle avait fait une guerre...
Un lourd tribut. Hein,
une guerre très difficile contre la Russie, la petite Finlande contre la grande Union soviétique à l'époque, et non pas la Russie. Elle a payé très cher le prix de sa souveraineté, de son indépendance. Elle a du coup, après la guerre, décidé d'être neutre pendant longtemps. Maintenant, elle met fin à cette neutralité parce qu'elle se sent directement menacée. C'est une menace existentielle, pour prendre une expression devenue courante.
Les observateurs croyaient que Vladimir Poutine, lundi, allait annoncer des choses graves, allait réitérer ses menaces, voire même les aggraver. Finalement, tout le monde a été surpris de son ton mesuré avec tous les guillemets qui s'imposent.
Je ne pense pas qu'il y ait un ton mesuré. Simplement, il a redonné la logique de ses interventions précédentes, notamment l'intervention spectaculaire du 21 février, soit 3 jours avant ou 4 jours avant l'attaque. Il n'a pas changé grand-chose, mais il faut bien reconnaître que par rapport à ce qui était ses buts de guerre, sinon affirmé, du moins à peu près clair, c'est-à-dire qu'il voulait mettre bas le régime de Kiev, il a échoué. Il n'a pas réussi à prendre Kiev, il n'a pas réussi à obtenir la reddition du gouvernement. Donc c'est difficile pour lui de faire une annonce aujourd'hui qui aurait eu l'air d'être un demi-objectif par rapport à ce qu'il avait prévu. Je crois qu'il joue le fait sur le terrain. Il a conquis une bonne partie du littoral de la mer Noire de l'Ukraine, pas encore tout. Pour moi, il y a un
en tout cas, il a verrouillé la mer d'Azov.
Il a verrouillé la mer d'Azov, mais je pense que son objectif, ce serait d'aller jusqu'à Odessa. Je serais surpris qu'il renonce à Odessa, même si visiblement, d'après en croire les experts militaires, c'est un objectif compliqué à prendre. Mais il n'a évidemment pas obtenu, et je ne crois pas qu'il obtienne, en tout cas à vue humaine, la chute du régime de Kiev et la reddition de l'Ukraine aux volontés de Moscou. Donc je ne pense pas qu'il avait de grands objectifs à affirmer parce qu'il a déjà affirmé des objectifs qu'il n'a pas réussi à remplir.
Alors sur le terrain, sur le champ de bataille, Yann, l'étau se desserre autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, proche de la frontière russe. Plusieurs villages ont été libérés par les Ukrainiens ces dernières semaines, comme celui de Malarogan, où les habitants commencent à revivre après avoir passé un mois de terreur sous occupation russe. Reportage de Muriel Paradon et Samy Boukhalifa.
Un fichu blanc sur la tête, Oksana est en train de bêcher son potager. La vie reprend à Malarogan, même si la guerre n'est pas bien loin. Une carcasse de tank calcinée à l'extérieur de la maison et le bruit des bombardements sont ici pour le rappeler. Le village d'Oksana a été occupé par les Russes pendant un mois avant d'être libéré. Et la jeune femme en garde un souvenir terrifiant.
On a vu des choses, bien sûr, qu'on en a vu. Les tanks qui allaient et venaient, les soldats qui marchaient, on voyait tout à travers les fenêtres. C'était effrayant, bien sûr. Nous avions peur, la guerre était dans la rue et la situation était imprévisible.
Le mari d'Oksana, Sergueï, se rappelle, lui, de l'attitude hostile des soldats russes.
Une balle enclenchée, le doigt sur la gâchette, ces gars ne nous parlaient pas comme à des humains et ils pointaient toujours leurs fusils sur vous.
Durant l'occupation du village, Sergueï a vécu avec son épouse chez sa grand-mère, Baba Maroussia, une vieille dame en noir au sourire édenté qui a cru sa dernière heure arriver lorsque sa maison a tremblé sous les bombes.
J'ai eu peur de mourir durant cette guerre, car ils ne nous donnaient pas la permission d'être entourés. Je connais 12 personnes mortes à Malarogan qui ont toutes été enterrées dans leur jardin.
Baba Maroussia veut à tout prix reposer dans le cimetière du village avec son mari et sa fille décédés trop tôt. J'ai gardé, dit-elle, une place pour moi à leur côté. Muriel Paradon, Samy Boukhalifa, Malarogan, RFI.
Les forces russes poursuivent leur objectif de conquérir tout le Donbass, mais elles se heurtent donc à la résistance des Ukrainiens. Les combats sont vifs dans les régions de Liman et Severodonetsk, dans la région de Louhansk et plus au sud, près de Mariinka, près de Donetsk, sous contrôle russe. Les habitants de ces régions continuent de fuir lorsqu'ils le peuvent, bien sûr. Reportage cette fois de nos envoyés spéciaux Anastasia Bekio et Boris Vichit dans la cité ouvrière de Kourakov, située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front.
Avec ses dizaines de cartons de vêtements entreposés dans le grand hall d'entrée, le palais de la culture s'est transformé en centre de transit des personnes fuyant les zones de combat. Mais depuis quelques jours, le lieu est inhabituellement calme.
Cela fait 3 jours qu'il y a des bombardements intenses et c'est pourquoi on ne peut pas faire évacuer les gens d'Ougledar et de Mariinka. Du coup, c'est la calmie ici. Bien sûr, ce n'est pas bon signe.
Yekaterina Radzichevska, responsable du centre d'accueil, prend des nouvelles d'une famille qui vient d'être évacuée d'un village sous le feu. À la Pleskach, son mari Vassil et leur fils Sanya sont assis sur des chaises à gare.
On est sous le choc. Notre maison a été détruite par un obus. On est juste sorti avec ce qu'on avait sur nous. On n'a plus rien. Ça fait 2 mois que je n'ai plus de travail. Et mon fils aussi.
Le fils Sanya, 33 ans, est prostré dans un coin de la pièce. Il refuse les calmants qui lui sont proposés en dépit des encouragements de son père. C'est un miracle si l'ambulance a pu nous emmener jusqu'ici, poursuit Allah.
On ne pouvait tout simplement pas mettre un pied dehors. C'était explosion sur explosion. Juste à côté, nos amis ont été tués. Un homme de 50 ans et sa femme, c'est tout simplement l'horreur.
Un borsch fumant attend les 3 rescapés dans le hall voisin, mais ils déclinent poliment. Ils ont encore besoin de temps pour reprendre leurs esprits. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Kourakové, RFI.
Sept jours dans le monde.
Notez aussi dans l'actualité internationale que plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage jeudi à l'une des leurs, la journaliste vedette Shirin Abu Akleh, tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Les États-Unis et de nombreux pays condamnent sa mort et réclament une enquête transparente. Sachez aussi que le gouvernement du Sri Lanka a ordonné mardi de tirer à vue sur les pillards et les personnes impliquées dans des violences au lendemain des affrontements les plus meurtriers depuis des semaines dans le pays qui ont précipité la démission du Premier ministre. Un nouveau chef de gouvernement a été nommé. Notez que plus de 140 personnes ont été tuées entre fin avril et début mai dans le nord de la capitale haïtienne, en proie à des affrontements entre deux gangs rivaux. Et sachez enfin que Ferdinand Marcos Jr., fils et homonyme du défunt dictateur, a remporté mardi une victoire écrasante à la présidentielle aux Philippines, réinstallant donc son clan familial au sommet du pouvoir 36 ans après la révolte populaire qu'il en avait chassé. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Yann Mince, expert des questions internationales. Je vous ai vu sourire en entendant le nom de Ferdinand Marcos. Ça rappelle des souvenirs, hein ?
Oui, ça rappelle
de tristes souvenirs.
Ça rappelle des souvenirs caricaturaux d'un gang au pouvoir qui était le gang de Ferdinand Marcos et de son épouse Imelda.
On se souvient de la collection de souliers, de chaussures d'Imelda.
Notamment, oui. On se souvient aussi de ce mur qu'elle avait fait construire tout le long d'un bidonville pour la visite du pape, pour qu'il ne voie pas les masures dans lesquelles ces pauvres habitants de Manille étaient contraints de vivre. Donc effectivement, ça fait un drôle d'effet de voir le fils aujourd'hui élu, même si on n'est pas forcément identique à ses parents, mais ça illustre, je crois, la domination persistante de la vie politique philippine par des grandes dynasties familiales avec des fortes implantations dans certaines régions et des liens parfois troubles avec des milieux criminels. Et ça n'en finit pas. Je veux dire, cette logique dynastique persiste aujourd'hui dans la vie politique philippine en dépit des changements de gouvernants.
Bien, nous allons continuer donc à parler de l'Ukraine avec vous, Yann. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a deux pays. Il y a Kiev, on entendait un reportage le 8 mai dernier à Kiev, et l'Est.
Il y a d'autant plus deux pays que c'est ce qu'essaye d'inscrire dans le sol, si je puis dire, et éventuellement bientôt dans les institutions, Vladimir Poutine. Ce que je veux dire, c'est qu'on a entendu cette semaine que la région de Kherson, en tout cas, des pro-russes dans la région de Kherson allaient demander le rattachement de la région à la Fédération de Russie. Ce qui veut dire que là, effectivement, on aurait deux pays. On aurait la Russie, qui s'étendrait bien au-delà de la frontière internationale, et puis une Ukraine qui resterait indépendante. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit, effectivement, outre le Donbass, qui n'est pas encore complètement conquis par l'armée russe, mais elle continue à essayer d'en prendre la partie qu'elle ne contrôle pas, et puis toute cette partie du littoral, qui sont aujourd'hui sous occupation russe et dans lequel les autorités pro-russes sont installées. On fait comme si un nouvel État était en voie de s'installer, un nouveau système éducatif, etc. Donc effectivement, l'armée russe et le gouvernement russe inscrit la division au sein même de l'Ukraine et l'inscrit non seulement dans le sol, mais dans les institutions.
Et si les Russes ont du mal à conquérir le Donbass, c'est qu'il y a face à eux des Ukrainiens aidés par les Occidentaux. C'est l'État occidental, et notamment américain.
Bien entendu, toute la question pour moi, c'est de savoir combien de temps les Occidentaux vont continuer à aider l'Ukraine. Alors, il y a deux choses différentes. Je pense que d'un côté, Joe Biden avait promis à ses électeurs qu'il n'entraînerait plus les États-Unis dans des guerres à l'étranger. Mais là, il s'est senti obligé de faire quelque chose parce que tout le monde se dit, ou une partie des Occidentaux se dit, si on n'arrête pas Vladimir Poutine là, il continuera et il ira plus loin et il menacera d'autres pays. Alors, peut-être des pays de l'OTAN, mais peut-être des pays qui ne sont pas encore de l'OTAN ou qui ne seront peut-être jamais. Et je pense par exemple à la Moldavie. Et là, du coup, effectivement, on s'approche de plus en plus de la frontière de l'Union européenne. Et je crois que c'est ça, c'est cette jurisprudence-là qui fait que les pays occidentaux veulent absolument arrêter Poutine et veulent continuer à soutenir l'Ukraine. Est-ce qu'ils sont convaincus que le gouvernement ukrainien peut vraiment inverser le rapport de force sur le terrain et repousser les Russes à la frontière, ou à la frontière de fait d'avant février, je ne sais pas. La question va être de savoir combien de temps va durer la guerre. Le service sécurité américain disait cette semaine qu'il pensait que Vladimir Poutine voulait s'installer dans une guerre longue. La question, c'est de savoir si les Occidentaux sont prêts, et les opinions notamment, à s'installer elles aussi dans un soutien long à l'Ukraine.
En tout cas, les Européens, on va parler de l'Europe dans un instant, font bloc pour l'instant.
Pour l'instant,
si l'on accepte un peu la Hongrie sur les questions de gaz.
Oui, de gaz et de pétrole, parce qu'effectivement, on a des dépendances qui sont extrêmement différentes d'un pays européen à l'autre. On voit même des différences entre la France et l'Allemagne, parce que la part de gaz qui vient dans leur approvisionnement respectif de la Russie est très différente. Donc on a inévitablement des tensions. C'est très compliqué de maintenir une cohésion à 27, alors qu'on a des rapports de dépendance stratégique et économique vis-à-vis de la Russie qui sont très différents, sans même parler d'une histoire. Mais on voit bien qu'en Europe centrale et orientale, il y a eu un éclatement de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, dans lequel il y a la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. On voit bien qu'aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie ne sont pas du tout sur la même ligne et que donc le rapport avec la Russie est très différent au sein de l'Union européenne. Et je pense que honnêtement, la Hongrie est très isolée aujourd'hui, peut-être la Slovaquie aussi, parce qu'elle est très dépendante pour son approvisionnement pétrolier. Mais globalement, j'ai le sentiment que, bon an, mal an, l'Union européenne arrive à maintenir sa cohésion, quitte à faire des exceptions, par exemple, sur un embargo pétrolier pour certains pays comme la Hongrie, qui aurait un peu plus de temps pour s'adapter.
Et puisque nous parlons de l'Ukraine, Yann, je voudrais signaler l'apparition d'un livre qui est absolument poignant, qui s'intitule « Il est 15h30 et nous sommes toujours vivants ». C'est un journal de guerre écrit par une écrivaine et photographe ukrainienne qui s'appelle Evgenia Belorussets. C'est un témoignage sur la guerre, témoignage jour le jour, avec des photos sur la guerre en Ukraine, à Kiev et ailleurs. C'est un témoignage qui est absolument brut et poignant.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons, Yann Mince, reparler du 9 mai, car le 9 mai, c'était aussi la journée de l'Europe. Deux jours après avoir été réinvesti président pour un second quinquennat, Emmanuel Macron a plaidé à Strasbourg pour une révision des traités européens. Il a défendu la création d'une convention de révision des traités afin de réformer le fonctionnement de l'Union européenne devant le Parlement européen. Le président a aussi ouvert un autre chantier. Il propose en effet la création d'une nouvelle organisation politique européenne, informelle, qui puisse inclure notamment l'Ukraine à Strasbourg. Anthony Latier.
Les Ukrainiens frappent à la porte de l'Union européenne. Il faut leur ouvrir, assume Emmanuel Macron.
L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union.
Oui, mais voilà, ajoute le chef de l'État français, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE prendrait plusieurs années, voire plusieurs décennies. Le président appelle donc à la création d'une autre organisation plus large, une confédération européenne, une idée défendue par son prédécesseur François Mitterrand en 1989.
Sa proposition n'eut pas de postérité, mais elle posait une bonne question et cette question demeure. Comment organiser l'Europe ? D'un point de vue politique, est plus large que l'Union européenne. C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne.
Emmanuel Macron envoie ainsi un message aux Ukrainiens, ne vous découragez pas, et un message au président russe Vladimir Poutine en lui signifiant que pour lui l'Ukraine est dans l'Europe, peu importe qu'elle adhère ou pas à l'Union européenne.
Alors comme il s'y était engagé, Emmanuel Macron a réservé son premier déplacement international à Olaf Scholz, le chancelier allemand, qu'il a rencontré à Berlin. Les deux dirigeants ont mis en avant leur solidarité avec l'Ukraine. Et Emmanuel Macron a été plus précis encore sur cette idée de confédération de cette communauté politique européenne.
Le degré d'intégration, d'intimité, de rapprochement, l'exigence des standards de notre Union européenne fait que cette perspective pour des États comme l'Ukraine ou plusieurs autres n'est pas atteignable à l'horizon de quelques années. Le risque que nous prenons, c'est de désespérer ceux qui sont nos voisins et qui ont à la fois cette proximité géographique et qui sont attachés au même socle de valeurs que nous. Et j'insiste sur ce point car l'Ukraine aujourd'hui se bat bien pour cela et prend tous les risques pour cela. Il nous faut donc construire une nouvelle forme politique et pas simplement juridique qui permet d'arrimer à l'Europe des États qui partagent ces valeurs qui sont dans cette géographie et de bâtir ensemble une coordination politique, sans doute des formes de solidarité en termes de sécurité, des coopérations en termes d'énergie. d'infrastructures, de connexions, de circulation des personnes et en particulier des jeunesses. À cet égard, je souhaite que par un travail étroit avec M. le chancelier Scholz, nous puissions en effet concerter. Et il est clair que c'est un des sujets que nous aurons ensemble à évoquer avec le président Zelensky.
Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mens, le spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Nous allons parler dans un instant de son MOOC qui s'intitule « Oblique avec les jeunes, des raisons de ne pas désespérer pour les jeunes d'aujourd'hui ». Mais parlons de cette idée qui n'est pas nouvelle, mais qui ressurgit d'une confédération européenne informelle.
Je pense que l'Union européenne a structurellement un problème qui est, si je puis dire pour M. de la Palice, soit on est à l'intérieur, soit on est à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, il faut se conformer à tout un tas de règles, les adopter, les intégrer dans son droit quand on est un État membre. Ça prend beaucoup de temps, c'est très contraignant, ce sont des négociations très longues, chapitre par chapitre, etc. Donc, une fois qu'on est dedans, très bien, on bénéficie de la solidarité européenne. Alors, pas tellement de la solidarité en matière de sécurité, parce que c'est plutôt au sein de l'OTAN que ça se passe que c'est l'Union européenne, mais en tout cas, en termes de solidarité, on voit bien une grande partie du budget de l'Union européenne va à la politique agricole commune, qui bénéficie à un certain nombre de pays producteurs, et aussi les fonds de développement régionaux, qui sont parfois détournés dans des pays comme la Hongrie, mais qui sont très importants pour les pays bénéficiaires. En revanche, tant qu'on n'est pas dedans, on ne bénéficie de rien. On est simplement candidat. Ce que Emmanuel Macron semble vouloir créer, c'est une sorte de deuxième cercle de pays qui ne bénéficient pas de tout le programme, mais qui auraient quelques avantages. Alors, il n'a pas dit très clairement ce que ça voulait dire en termes de solidarité ou de sécurité, mais ce seraient des pays qui ne seraient pas vraiment dedans, mais qui seraient appelés à le devenir. Alors, je crois qu'un certain nombre
Donc, une sorte de strapontin.
Oui, un certain nombre d'Européens, d'Européens non français, de pays européens hors la France, se demandent si ce n'est pas une façon de retarder l'intégration des pays des Balkans, qui sont candidats depuis assez longtemps pour certains d'entre eux, alors avec des conditions compliquées, parce que la Serbie et le Kosovo ne pourront rentrer que quand elles auront réglé leur contentieux territorial.
Ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui.
Ce qui risque de prendre un certain temps, et on pense en plus à des pays comme la Bosnie. Mais quand même, il y a cette idée qu'un certain nombre de pays, je pense à la Macédoine du Nord, pourraient intégrer des pays hors la France, ils sont favorables. Donc il y a un certain nombre de gens, je crois, qui soupçonnent Emmanuel Macron de vouloir faire avec ce deuxième cercle une salle d'attente encore plus longue que l'est aujourd'hui celle des pays candidats. Maintenant, je comprends la logique qui est de dire il faut que les pays qui ont des valeurs proches s'associent d'une façon ou d'une autre, parce qu'en face, il y a des pays qui ont des valeurs vraiment très différentes. Et en face, évidemment, c'est essentiellement la Russie. Mais ça va être très compliqué à faire adopter, je pense, par les autres pays européens.
Avec toujours et plus que jamais l'axe franco-allemand.
Oui, parce que l'axe franco-allemand, c'est un des axes essentiellement, enfin, ce n'est pas le seul fondateur de l'Union européenne. Si on revient tout au début de la communauté européenne, il y avait la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux. Ce n'était pas beaucoup de pays. Et évidemment, dans cet ensemble, la France et l'Allemagne étaient des pays qui pesaient lourd, ne serait-ce que démographiquement et économiquement. Maintenant, quand on est 27, mécaniquement, de façon relative, les deux pays pèsent moins. Mais c'est vrai que s'ils ne sont pas unis sur un dossier, c'est très compliqué de le faire avancer. Donc il faut au moins que la France et l'Allemagne soient à peu près d'accord pour qu'un dossier avance et qu'ils puissent ensuite convaincre les autres si les autres ne le sont pas, ou convaincre les pays qui sont les plus proches de chacun d'entre eux respectivement. Donc le couple franco-allemand est absolument nécessaire. Je pense que c'est plutôt un couple qu'un moteur. Je ne suis pas sûr que ce soit encore aujourd'hui absolument le moteur, mais c'est un couple sans lequel on ne peut rien faire si la France et l'Allemagne sont en désaccord. Et on le voit bien sur la politique énergétique, s'ils étaient en désaccord, on ne pourrait rien faire. Et tant qu'ils ne seront pas un minimum d'accord ou suffisamment d'accord, ce sera compliqué de faire avancer le sujet.
Yann Mens, l'actualité en France est politique avec la nomination attendue d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement, peut-être la semaine prochaine. Et dans tous les partis, la préparation des élections législatives, on vous en parle dans nos journaux. Je suis sûr que tout ça vous passionne.
Ça m'intéresse parce qu'inévitablement, il en va... Quand la quand vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous. À vous. Oui. Donc la politique nous concerne, même quand on essaie de s'en tenir éloigné, ce qui n'est pas mon cas. Mais je pense que beaucoup de gens ont tendance à être un peu lassés de la politique parce qu'ils n'en voient la partie partisane, pas la partie choix politique, politique publique, etc., qui évidemment est plus austère peut-être. C'est peut-être moins amusant à regarder que des bagarres, mais en même temps, les bagarres entre partis sont tellement vaines que d'une certaine manière, elles discréditent l'autre politique, celle des choix qui impliquent notre société et notre avenir. Donc, les élections sont évidemment un moment important, un moment où on voit le meilleur et le pire de la vie politique, où on voit aussi se former des alliances qui sont parfois tactiques et dont le contenu, et je pense évidemment je ne sais pas s'il faut dire NUP ou NUPES.
Oui, personne ne sait, mais bon, c'est pas
très,
selon.
Très bien compris, mais disons en tout
la
cas...
La nouvelle Union populaire.
Voilà, cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, je crois. Oui. Ça. On la voit se former, et on la voit se former avec un cœur d'accord économique, social, ou sur les questions économiques, sociales qui me semblent à peu près cohérent. Je sais que certains contestent les choix budgétaires et on peut les contester. En revanche, je suis un peu plus inquiet sur le reste et notamment, par exemple, sur la position de cette union sur l'Ukraine. Est-ce que effectivement les partis qui en sont membres sont favorables à ce que la France et les autres pays occidentaux continuent à armer l'Ukraine et à pouvoir se défendre contre l'agression russe ou pas? Pour moi, ça, c'est important. Et j'ai peur que ça soit mis sous le tapis au profit de questions qui sont plus immédiatement franco-françaises et qui touchent évidemment le quotidien de nos compatriotes.
En tout cas, toute l'actualité politique est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour à Emmanuel Alexandre, qui est médecin à Conakry et qui apprécie beaucoup les propos de Yann Mince.
Merci beaucoup.
À Emmanuel Alexandre, on le salue. Bonjour à Issouf, à Koudougou, au Burkina Faso, à Samba, à Nouakchott. Un salut à Faustin, à Rutshuru, en République démocratique du Congo, qui voudrait la levée de l'état de siège dans l'est de son pays. Bonjour à Gédéon, à Kinshasa, à Boubacar qui nous écoute à Teliwell dans le Fouta Djalon, en Guinée. Enfin, un salut à Laurent qui est journaliste à Cotonou, Komi à Lomé et Lassi à Bamako.
Semaine d'actualité.
Il est temps de partir pour l'Afrique, Yann Mince, au Togo pour commencer, où l'émotion est toujours forte après l'attaque terroriste qui a frappé un poste de sécurité dans le nord du pays. 8 soldats ont perdu la vie lors de cet assaut qui a eu lieu mercredi vers la localité de Pinkankandi, dans le canton de Kandjouaré, à la frontière avec le Burkina Faso. C'est la première fois qu'une attaque terroriste fait des victimes sur le sol togolais. Les habitants de la région sont sous le choc. Kaël Alex.
Cet habitant de Pinkankandi n'en revient toujours pas. En pleine nuit, vers 2h, ce mercredi, il est réveillé par des hommes qui passent dans le village. Deux groupes traversent les concessions, l'un composé d'une vingtaine d'individus, l'autre d'une trentaine.
Ils étaient à pied, ils avaient laissé les motos à côté, à peine 1 kilomètre avant de traverser, rentrer au Togo. C'est dans nos courriers passés, mais ils n'ont rien dit aux civils. Ils avaient des trucs comme des radios, et à leur tour, ils répondaient. On était restés dans nos chambres enfermés, les enfants pleuraient. On avait peur, personne ne croyait qui va vivre encore.
Les coups de feu durent plusieurs heures. Le lendemain, les habitants apprennent le décès de 8 soldats. Un scénario inimaginable, selon cet habitant d'une localité voisine qui concède que la psychose commence à s'installer.
Nous avons la peur au ventre. Ces gens-là, ils n'ont pas une tenue comme ça pour les distinguer. Tu peux être avec eux sans le savoir. Et quand tu véhicules les informations maintenant, on ne sait jamais. Sinon, quand même, la population a repris les activités, mais lentement, puisque hier, les gens sont rentrés vite Déjà à 19h, tout le monde était dans sa chambre. Avant cette attaque, il n'y a pas de problème de sécurité. Puis c'était au Burkina qu'on entendait ça. C'est choquant, franchement, c'est choquant. Parce qu'on n'a jamais vécu ça au Togo aussi.
Dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement a affirmé tout faire pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes.
Direction le Burkina Faso, maintenant Yann Mince. Mardi, le tribunal militaire de Ouagadougou a donné son verdict sur l'indemnisation des familles des victimes du coup d'état d'octobre 1987. Coup d'état au cours duquel le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés, on le sait. Correspondance de Yaya Boudani.
Dans son délibéré, le tribunal a déclaré partiellement recevables les réclamations formulées par les ayants droit des victimes du coup d'État du 15 octobre 1987. Chaque membre des familles des victimes, hormis ceux de la famille Sankara, recevra la somme de 2,5 à 50 millions de francs CFA au titre du préjudice moral et économique. Une décision qui satisfait Carfagnanou, l'agent judiciaire de l'État.
Vous aurez remarqué que les montants réclamés par un certain nombre de parties, ce n'est pas ces montants qui ont été alloués, parce que nous avons effectivement apporté au dossier des preuves qu'il y a des sommes qui ont déjà été payées. Et nous avons surtout demandé à la juridiction de tenir compte de ce qui s'est fait ailleurs et de ce qui s'est fait au Burkina pour des dossiers similaires.
Finalement, l'État burkinabé n'a pas été reconnu civilement responsable. Néanmoins, le tribunal l'appelle en garantie dans l'éventualité de l'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit des ayants droit de certaines victimes décédées. Carfagnanou.
Il y a un élément de satisfaction parce que nous n'avons été appelés qu'en garantie en cas donc d'inexécution. Ça veut dire qu'il faut que les accusés ne soient pas en mesure de payer les sommes mises à leur charge avant que l'État éventuellement ne puisse être appelé à exécuter ou à payer ces sommes-là.
L'État burkinabé a par ailleurs été débouté de sa demande aux fins de dédommagement. Selon le tribunal, cette demande est mal fondée.
Partons pour la Côte d'Ivoire avant de vous retrouver, Yann Mince. Abidjan accueille en effet depuis lundi et pour deux semaines la COP15 sur la désertification et la dégradation des terres. Lundi se tenait le sommet des chefs d'État et des gouvernements qui ont dressé un état des lieux et planché sur l'initiative d'Abidjan, un projet ivoirien destiné à servir de modèle en matière de restauration des forêts et de développement agricole durable. Correspondance de Pierre Pinto.
Seule une dizaine de chefs d'État, tous africains, ont fait le déplacement à Abidjan. Parmi eux, le Nigérien Mohamed Bazoum.
La détérioration des écosystèmes accentue les famines, les malnutritions, les déplacements des populations. Elle engendre des tensions sociales et communautaires produisant de l'anomie sociale. L'économie de mon pays, le Niger, repose en grande partie sur le secteur rural. 80% de la population nigérienne vit en effet de l'agriculture dont les rendements baissent d'année en année du fait de la dégradation des terres et du changement climatique.
Mohamed Bazoum qui demande qu'on l'aide à planter 500 millions d'arbres par an dans le cadre de la Grande Muraille Verte, ce projet de lutte contre la désertification entre l'Ouest et l'Est de l'Afrique. Si tout s'appelle à la poursuite de la mise en œuvre de cet ambitieux programme né il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire, qui a perdu 80% de ses forêts en 60 ans, se pose pour sa part en laboratoire d'une nouvelle stratégie. Avec l'initiative d'Abidjan, Alassane Ouattara cumule ses programmes de reforestation ou de développement de l'agriculture durable, une stratégie qu'il veut présenter comme un modèle.
L'initiative d'Abidjan est non seulement conçu comme un modèle de la gestion durable des terres, mais aussi un modèle de production durable susceptible de créer des emplois. Et c'est surtout un modèle qui peut être répliqué en Afrique et dans les autres régions du monde.
Coût estimé de ce programme, 1,5 milliard de dollars sur 5 ans. La Banque africaine de développement et l'Union européenne se sont montrés parmi les plus importants contributeurs.
Yann Mince, l'apparition du terrorisme au Togo vous inspire un commentaire ?
Alors, je crois que c'est la première fois que le terrorisme fait des victimes, mais il y avait déjà eu une attaque, si mes souvenirs sont bons, en novembre dernier, contre un poste de police, je crois, enfin en tout cas un objectif, si je puis dire, officiel. On est dans une logique qu'on voit dans d'autres pays, comme le Bénin notamment, et comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une poussée des groupes djihadistes vers les zones frontalières, vers les pays côtiers, comme on dit, avec le risque qu'on ait la répétition des incompréhensions qui ont permis au Mali, notamment, le développement du djihadisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre le djihadisme uniquement avec des moyens militaires, parce que le djihadisme lui-même utilise les insatisfactions sociales, les frustrations économiques, sociales de la population, les frustrations éventuellement liées à des discriminations, par exemple contre les Peuls qui sont parfois assimilés à des bandits ou à des groupes djihadistes, les éleveurs Peuls notamment, pas seulement les éleveurs d'ailleurs, les agriculteurs aussi. Mais donc, si tout ça n'est pas pensée et n'est pas, comment dire, si ces phénomènes-là ne sont pas combattus par les autorités, on risque d'avoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que ces insatisfactions, ces frustrations face le jeu des groupes djihadistes qui sont, je dirais, des espèces de sociologues empiriques, c'est-à-dire qu'ils utilisent les difficultés sociales, les tensions qui existent pour recruter des gens qui sont mécontents de l'attitude du pouvoir à leur égard ou de l'attitude du reste de la population à leur égard.
Yann Mince, je précise que dans le numéro d'Alternatives économiques de mai, donc avec en une le nouveau désordre mondial, vous signez un papier sur la solidarité des pays du Golfe avec la Russie, en quelque sorte.
Oui, parce que depuis quelques années, les membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui est dominée globalement par l'Arabie saoudite, et une dizaine d'autres producteurs emmenés par la Russie, ont créé ce qu'on appelle l'OPEP+, qui a réussi globalement à avoir une politique de quotas internes, c'est-à-dire qu'ils se fixent chacun des quotas de production, de façon à maintenir des cours à peu près au niveau qui leur convient, qu'ils ne fassent pas trop de yo-yo. Ils en font un peu, mais pas trop, de façon à leur assurer à ces producteurs des revenus réguliers. Et ça, c'est quelque chose à laquelle des pays comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis sont très attachés. Ils ont des objectifs budgétaires ambitieux pour faire des réformes chez eux et notamment sortir de la dépendance au pétrole. Et donc, ils n'ont pas envie de sacrifier ça aux demandes, par exemple, des États-Unis qui voudraient que pour compenser éventuellement la baisse de la production pétrolière russe ou pour pouvoir écarter la Russie et faire un embargo, les pays du Golfe produisent plus. Et pour l'instant, les pays du Golfe disent non, nous maintenons notre accord de business, si je puis dire, avec la Russie. Combien de temps ça tiendra, on va voir, mais pour l'instant, ça tient.
Alors, un mot pour terminer sur Oblique, votre MOOC, c'est le numéro 7 du printemps 2022, qui essaie de donner des raisons pour les jeunes de ne pas désespérer.
Oui, parce qu'on constate que chez un certain nombre de jeunes, notamment parce qu'ils ont une grande inquiétude, et ça touche le sujet sur la désertification dont on parlait, des grandes inquiétudes sur l'avenir de la planète même, pas seulement le leur personnellement, mais l'avenir de la planète, c'est celui dans la planète sur laquelle ils vont grandir et leurs enfants vont eux-mêmes grandir. Donc il y a une inquiétude évidemment beaucoup plus forte, parce que la prise de conscience est plus forte, je crois, chez un certain nombre d'entre eux, pas tous, hélas, du fait que c'est le patrimoine commun qui est en danger. Et puis ensuite, il y a des difficultés qui sont plus difficultés économiques, sociales, notamment d'insertion sur le marché du travail. La compétition est rude et la précarité est plus forte pour un certain nombre de jeunes qui commencent dans la vie professionnelle. Tout ça crée une inquiétude et un pessimisme chez certains jeunes qui me semble peut-être exagéré, disproportionné, mais que je peux comprendre et qu'on ne peut combattre qu'en leur donnant des arguments. Je veux dire, effectivement, c'est pas forcément, la situation n'est pas rose, notamment pour vous, mais elle n'est pas non plus totalement noire, sombre, et il ne faut pas baisser les bras.
Oblique, donc, numéro 7, c'est un bel objet avec beaucoup de dessins. C'est un MOOC, un vrai MOOC, beaucoup de dessins, de graphiques, d'imagination. Et c'est très agréable à lire. C'est un bel objet, encore une fois. Merci, Yann Mince.
Merci à vous.
Et à bientôt, à la prochaine.
Avec grand plaisir.
Une semaine d'actualité réalisée, évidemment, par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées. Et nous parlerons cette fois de Flora Tristan, qui au XIXe siècle fut une combattante féministe et la voix des ouvriers. Nous en parlerons avec Brigitte Krulik, qui vient de lui consacrer une biographie. Donc à ne pas manquer la vie de Flora Tristan, une sacrée femme. Flora Tristan, donc demain dans Idées, 17h10 heure de Paris, 15h10 temps universel. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.